Seigneur, nous sommes devant ta face ce matin. Nous approchons le moment où nous voulons t'écouter. Ta parole est vérité. Ta parole donne la vie. Nous avons besoin de ta présence pendant ce moment et de tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. Nous lirons les 8 premiers versets. Évangile selon Jean 12, 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare qui l'avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit le pied de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Comme venait de le dire la présidente de ce culte, c'est la semaine qui a été dédiée à la femme au niveau de toute la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Le thème que nous allons développer pour essayer de méditer sur ce texte s'intitule « Les disciples offrent un grand amour à Dieu tout en servant la société. » L'amour que tu peux donner à Dieu, tu le fais et au même moment, tu sers aussi la communauté. Le défi qu'on cherche à relever par cette méditation est que nous voulons avoir, c'est un défi lié au choix du modèle à suivre. Quelle est cette personne que je peux imiter dans ma vie de tous les jours, dans ma vie spirituelle? Et l'objectif qu'on est en train de poursuivre, c'est l'objectif qui dit qu'on aimerait que les hommes, les femmes, les enfants, tous puissent vivre une vie qui puisse plaire à Dieu et aux hommes à la lumière des figures de la Bible, à la lumière de certaines personnes de la Bible. Et ici, nous venons de lire certaines personnes que nous pouvons imiter, vous le comprendrez avec le développement. Alors, dans le contexte proche du texte que nous avons lu, il s'agit de Jean 11, vous allez vous rendre compte que Jésus est un ami à Lazare, à Marie et à Marthe. Et Lazare venait d'être ressuscité par Jésus. Et dans le contexte immédiat, c'est le texte que nous allons développer, mais très tard, vous allez voir les conséquences de ce qui va se passer ici à Béthanie. Notre texte se structure en deux parties. La première partie, c'est la place des convives. Ça va du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous allez remarquer qu'il s'agit d'un repas qu'on est en train de partager. Il y a des invités. Et la deuxième partie concerne l'intervention malencontreuse de Judas. Ce sont les 4 derniers versets. Du verset 4 au 8e, on parle de cette intervention qui est malencontreuse de Judas Iscariote. Alors, pour la première partie qui concerne la place des convives, nous remarquons ici que le ministère de Jésus, le ministère public que Jésus était en train de faire ici sur la terre, est en train d'aller à sa fin. Alors, Jésus est invité chez Marie pour un repas. Et les trois personnes sont aussi, disons, les deux autres amis à Jésus, dont Marthe et Lazare, sont aussi invités. Alors, dans la maison, vous allez vous rendre compte que Marthe va servir, Lazare va participer comme quelqu'un qui fait la communion, et Marie va travailler comme quelqu'un qui va jouer le rôle de... Bon, elle va faire la louange. Alors, et le service, plus la communion et la louange, sont trois choses qui sont fruits des attitudes que doit avoir un bon disciple. Alors, ici, on va remarquer que Marie va oindre les pieds de Jésus pour prouver son amour envers Jésus. Il faut faire remarquer ici quelque chose, que dans le Proche-Orient, ici nous sommes en Palestine, où c'est un milieu désertique. Et dans un milieu désertique, il fait très chaud, et quand vous recevez une hôte chez vous, quand vous invitez quelqu'un, avant de le recevoir pour le repas, il faut que cette personne se lave les pieds. Et ce sont les esclaves, les femmes qui étaient destinées à faire cette tâche. Et en plus des lavements des pieds, on doit oindre de parfum les pieds là qui ont été lavés. Et si on était plus riche, on pouvait même aller jusqu'à oindre la tête de l'invité. Alors, aussi, on ne se mettait pas à table comme il est le cas ici chez nous. Vous mettez sur la chaise et il y a une table où on y mettra le repas. Ici, on se met par terre sur des nattes. Alors, on ne peut pas prendre le repas avec les pieds sales sur la natte. On devait se laver. C'est ça que Marie est en train de faire. Ça veut dire, ce lavement des pieds était quelque chose qui était lié à l'hospitalité. À l'hospitalité pour les invités. Alors, l'usage religieux de cette façon, de cette onction, c'est que les hommes primitifs se sont figurés que les dieux éprouvaient du plaisir à sentir la bonne odeur. Il a été dit que ce parfum a bien senti et s'est répandu toute la maison où se trouvaient ces gens. Alors, ce parfum avait aussi le sens honorifique. Jésus, ici dans l'évangile selon Jean, il est considéré comme le Fils de Dieu. Alors, avec cette personnalité, avec ce titre de Jésus, il méritait d'être honoré. Alors, vous allez remarquer que le parfum a quand même un pouvoir. Même à la maison, vous savez le parfum, au moins peut-être de chacun qui vit dans la maison. Si votre épouse passe, vous pouvez sentir par l'odeur. Si c'est votre mari, c'est votre enfant, le pouvoir du parfum existe au moins. Et ça marque que ça communique avec le cerveau de celui qui est en train de sentir l'odeur. Mais ici, le parfum, ça sera plus que ça. Ça sera dans l'ordre de la vie spirituelle. Alors, il y a aussi un sens théologique qui est lié à ce parfum que Marie va utiliser pour oindre le pied de Jésus. Il y a un double sens. Marie va oindre les pieds de Jésus. Vous allez vous rappeler dans le chapitre 11, en Luc 10, Jésus est en train de dire que Marie a choisi une bonne part parce qu'elle est sur les pieds de Jésus. Le premier sens ici, c'est de montrer que Marie est disciple de Jésus et elle doit l'honneur à son maître, c'est pourquoi elle doit oindre les pieds de son maître. Autre chose, c'est que par ce parfum, le parfum qu'elle a utilisé, c'est le parfum des nards. Et le parfum des nards, c'était le parfum qui était utilisé pour momifier les rois, pour momifier, ça veut dire on l'utilisait pour les morts. Mais ici, Jésus est vivant, mais de son vivant, on est en train de le momifier. Vous comprendrez que cette femme est en train de prophétiser la mort de Jésus-Christ qui était imminente. Parce que dans le contexte éloigné de notre texte, le verset 9, même jusqu'au chapitre 12, vous vous rendrez compte que on est en train de comploter contre Lazare parce que Jésus l'a ressuscité, il a fait venir beaucoup de gens vers Jésus. Alors on doit tuer Lazare qui était ressuscité, mais aussi Jésus sera mis à mort. On est en train de vouloir les tuer. Et au chapitre 12, il y a l'entrée triomphale en Jérusalem. Ça veut dire déjà Jésus va vers sa passion. Alors cette Marie qui oint les pieds de Jésus, elle est en train de prophétiser la mort de Jésus-Christ. Mais aussi, derrière cette onction, il y a aussi la prophétie sur sa résurrection. Jésus venait de ressusciter Lazare, frère à Marie, et Marie, elle est en train de voir que Jésus qui était capable de ressusciter son frère Lazare, il ne sera pas difficile pour lui aussi de ressusciter. Alors, elle a foi que Jésus va ressusciter. Voilà un peu le double sens de cette onction que Marie est en train de faire sur Jésus. Bien-aimés, il faut souligner certains éléments ici qui montrent la preuve de l'amour de Marie à Jésus. Je rappelle que notre thème dit que les disciples offrent un grand amour à Dieu tout en servant la société. Alors, les preuves de l'amour de Marie à Jésus, c'est que sur le plan social d'abord, Jésus est invité dans la maison de Marie. Elle avait soigneusement mis à côté le parfum. Le parfum là était un parfum de grand prix qu'elle a mis à côté et elle attendait un bon moment pour l'offrir à Jésus. Et pour elle, il ne sert à rien de garder quelque chose de très précieux vis-à-vis de Jésus. Ça veut dire qu'elle a l'honneur de confier, de oindre les pieds de Jésus, même si le prix est grand de ce qu'elle veut déverser par terre. Pour elle, ça ne dit rien. Ayant oint les pieds de Jésus, elle va les essuyer avec ses cheveux. C'est aussi un signe d'humilité, un signe de soumission totale et un don profond que Marie est en train de donner à Jésus-Christ. Chère maman, nous connaissons comment nous prenons soin de nos cheveux. Si on calculait un peu les dépenses de chacune des mamans qui est ici, vous êtes témoin que nous préservons beaucoup nos têtes parce que nous accordons beaucoup d'importance à nos cheveux. Mais ici, Marie va utiliser ses cheveux comme essuie. Elle va essuyer les pieds de Jésus, pas même les mains. À la maison, nous utilisons les serviettes, papier mouchoir, mais tu ne vas pas demander aux gens d'aller amener les bassins riches et essuyer les mains à l'absence de ça. Parce que c'est un habit que tu respectes trop, un habit de valeur. Mais ici, Marie va utiliser sa chevelure avec tout ce qu'elle avait comme soin de la tête. Elle donne ça à Jésus. Je dois rappeler aussi un élément que ce n'était pas normal ou bien honorifique pour une femme de garder ses cheveux, de lier. Mais ici, Marie a accepté cela. Ça veut dire son amour envers Jésus a dépassé même les règles. Elle n'a pas pu voir ce qui était comme convention ou bien loi de l'époque pour exprimer son amour à Jésus-Christ. Marie a le sentiment que notre Seigneur serait réconforté au milieu de tant d'opposition par la conscience de l'amour et du développement profond de ceux qui le connaissent le mieux. S'il vous plaît, bien-aimée Marie, l'acte qu'elle est en train de poser ici, plusieurs textes ont montré que le flacon de parfum qu'elle a utilisé ici a été brisé. Ça a un grand sens, le fait de briser le flacon. Ici, dans l'ancien temps, vous pourriez écrire les noms de vos ennemis sur le flacon qui a le contenu de choses très précieuses. Vous y mettez les noms de vos ennemis et vous brisez ce flacon pour montrer votre victoire sur cet ennemi. Alors quand Marie est en train de briser ce flacon, elle est en train aussi de dire que Jésus est victorieux face à ce monde où il y avait plusieurs oppositions contre lui. Marie, elle a prophétisé la mort et elle avait la foi en la résurrection de Jésus. Alors, ces trois disciples de Jésus, quand Marie met l'huile sur les pieds de Jésus, elle le reconnaît pas seulement comme un ami, mais comme son maître. Et l'odeur qui a répandu tout l'espace, l'odeur là, nous pouvons comprendre ça comme l'évangélisation. La parole que j'ai entendue, la parole de Dieu qui me transforme, ça doit se faire voir même dans mon alentour. Le parfum qui ressort de mes actions, mes bonnes actions qui seront à la vue de tout le monde, doivent témoigner en suffisance que j'ai cru en Jésus-Christ. Alors, l'intervention, la deuxième partie, l'intervention malencontreuse de Judas ici, du verset 4 jusqu'au verset 8, est en train de montrer quand même la critique que Judas a portée vis-à-vis de l'acte que Marie venait de poser. Bien-aimés, soyez d'accord avec moi que à côté de Marie, il y a toujours un Judas. Vous posez une bonne action, sachez qu'il y a quelqu'un qui va contredire. Il ne faut pas penser que tout ce que je fais sera bien accueilli par le public. Sachez que dans le public, il y a deux parties, ceux qui seront pour et ceux qui seront contre. Malheureusement, ceux qui sont contre sont nombreux que ceux-là qui sont pour. À côté de Marie, il y a toujours un Judas. S'il vous plaît, vous serez aussi en train de voir ça dans votre vie, parce que je ne saurais pas tout dire, je serai très synthétique. Ça veut dire, dans votre vie, vous pouvez vérifier, est-ce que j'ai été Marie, est-ce que j'ai été Judas? Qu'est-ce que j'ai fait comme Marie et qui a été Judas? Comment j'ai fait pour vaincre ce Judas? Est-ce que j'ai été Judas? Si j'ai été Judas, qu'est-ce que je peux faire pour devenir Marie? Les 11 disciples se sont joints aussi à cette idéologie-là de Judas. Une idéologie des hypocrites, une idéologie des gens qui voient dans de bonnes actions le gaspillage. Et ça revient au jugement mondain de nos offrandes ou bien de nos sacrifices. Quand vous chantez bien, certains seront contents et d'autres vont dire des choses contre. Mes chers, il y a toujours un Judas à côté de Marie. Alors, Marie a attendu l'occasion favorable pour faire du bien. Et Judas, par hypocrisie, a dit « Ceci servirait pour les pauvres. » Extérieurement, vous pouvez penser que quelqu'un est en train de joindre votre idée, mais intérieurement, il est contre, jusqu'à vouloir même votre mort. Il disait cela, et en lui, il planifiait déjà la trahison de Jésus. Vous vous rendez compte? Alors, les jugements mondains de nos sacrifices, il faut toujours faire attention et demander de l'aide au Seigneur, demander la sagesse divine pour évoluer, pour ne pas baisser les bras et dire bon, on est contre, alors je vais laisser. Non, allons de l'avant. La sympathie que Judas a montrée vis-à-vis des pauvres n'a pas montré que d'ailleurs il aimait les pauvres. Non, il était aussi voleur. Vous vous rappelez qu'il gardait, dans la Bible on a parlé des bourses, celui qui gérait l'argent. Il savait que comme il y aura l'argent, ok, et puis c'est trop, comme le parfum là était coûteux, il y aurait beaucoup d'argent, alors il gagnerait. Alors il savait que aujourd'hui je devrais avoir, mais voilà, elle vient de gaspiller. Un autre élément, toujours dans ce sens-là des voleurs, il est en train de planifier la trahison de Jésus et il sait qu'il va demander l'argent. Alors on vient de dégonfler ce qu'il devrait avoir, vous vous rendez compte? Il est en train de faire de plus, ça va donner au total, mais il y a un moins. Ah, elle gaspille. Alors il n'est pas content. Et Jésus a répondu paisiblement. Il a dit, laissez-la tranquille. Bien-aimée, s'il vous plaît, quand vous posez de bonnes actions, et les actions sont mal vues par tout le monde ou bien par une partie, Rassurez-vous que Christ, le juste juge, est en train de voir. Et il sait votre part, et il sait quand est-ce qu'il va vous bénir. Et il sait comment les gens seront convaincus par cette pratique, par ton action, qui est une action d'adoration du disciple envers son maître, une action de preuve d'amour. Je voudrais conclure en disant ceci, que Marie, c'est un exemple à suivre quand même. C'est un exemple de disciple qu'on peut suivre, qui adore son maître et qui le glorifie au temps opportun. Chaque chose a son temps. Hein? Chaque chose a son temps. Tu peux poser une action qui ne devrait pas être posée à tel instant et ça sera mal jugé, c'est vrai, ça sera mal jugé. Attendons le vrai temps, le bon temps pour poser telle action et recevoir la tranquillité. Là, dans la réponse de Jésus qui dit « Laissez-la tranquille, elle est en train de préparer mon ensevelissement. » Autre chose, l'acte de Marie est en train de représenter l'adoration des croyants rassemblés pour se souvenir de leur sauveur. Marie n'a pas posé son action en cachette, c'était à la vue de tout le monde. En d'autres termes, nos actions pour prouver l'amour, notre amour avec notre maître qui est Dieu, notre Jésus, ça doit servir de témoignage pour tout le monde. Tout le monde doit savoir que je suis disciple de Jésus par mes actions. Mes actions doivent s'imposer, doivent être très éloquentes dans le monde où je vis pour montrer aux gens que je suis disciple de Christ. Tu peux ne pas le dire, mais les actions vont prouver d'elles-mêmes. C'était le début d'un bon travail fait sur le Sauveur et ayant une double signification, je venais de le dire, l'onction de notre souverain sacrificateur et roi. Il y a aussi l'essence biblique là de briser le flacon. Nous ne devons pas oublier cela. Nos ennemis, innombrables qu'ils soient, c'est sans effet. C'est sans effet vraiment. Le passage de Jésus de la mort à la résurrection, on semble voir que dans la mort de Jésus, il y a une certaine faiblesse, mais qui sera vite supprimée par sa résurrection. Et quand on est en train de traverser des moments durs, le temps semble ne pas aller très vite. Mais rappelez-vous qu'il a passé seulement 3 jours dans la tombe et jusqu'à présent, il est vivant. Ça fait combien d'années? Ça veut dire que notre moment de gloire est allongé plus que le moment de souffrance que nous pouvons connaître ici. Un autre élément, c'est que Jésus reste le défenseur de son disciple. Dans le monde où on est hostile, disons, dans le monde hostile, n'aie pas peur. Dieu, Jésus, qui a vécu sur la terre, qui sait l'hostilité, le degré de méchanceté des hommes, il est prêt à te défendre n'importe dans quelle situation qu'il soit. La maison était remplie d'odeurs. Comment nous posons nos actions pour témoigner de Christ? Comment nous y arrivons? Est-ce que l'odeur s'arrête là où je suis, il va à 1 mètre ou bien à 100 mètres. À chacun, l'examen de conscience. Nous devons rendre hommage à Jésus qui est notre maître. Il faut aussi faire attention au péché de Judas. L'hypocrisie et la tentation ont fait de lui un voleur. Et enfin, un criminel qui a lâchement trahi son Seigneur. Si vous vous examinez, vous réalisez que quelque part vous jouez le rôle de Judas. S'il vous plaît, bien-aimé, il est temps de changer. Prouvons l'amour à ce Jésus-là qui est mort sur la croix pour nous sauver. La place de Judas, non. Mais au moins après, Judas s'est repenti. Mais nous n'allons pas dire, bon, je vais d'abord faire n'importe quoi et je me repens après. Pardon. Non. Allons-y comme l'Écriture est en train de nous inviter. Les pauvres resteront aussi toujours à côté de nous, vouloir ou pas. Il y a cette notion, dans la communauté, il y a toujours ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et ça, c'est pour toute la vie. S'empêcher de donner quelque chose de précieux à Jésus au nom des pauvres qui sont à côté de nous, non. Jésus a dit, moi, je suis avec vous pour peu de temps, mais les pauvres, vous les avez tous les jours. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de m'offrir en peu de secondes. Finalement, ça vous tourne la tête. Alors, Donnons des choses précieuses à Jésus quand il est temps. Les pauvres sont avec nous tous les jours. Ils ont aussi le temps où nous allons les servir. Pourquoi pas maintenant? La métaphore de l'odeur devient donc par excellence la métaphore de la vie spirituelle. L'amour de Marie fut plus fort que les conventions. Comment tu gères ton foyer par rapport à ta vie spirituelle? Comment tu considères ton boulot par rapport à ta vie spirituelle? Il y a des gens, au nom du boulot, je supprime toutes les valeurs chrétiennes. Bien-aimés, il faut faire attention. Pendant peu de temps, pendant 3 secondes, tu peux sauver ta vie, tout comme pendant peu de secondes, tu peux perdre toute ta vie. Dans 1 minute, tu peux poser une action qui sera une action pour sauver toute la suite et, ou bien en 1 minute, pour ne pas accepter les ridicules, tu peux accepter n'importe quoi pour perdre tout. Comment nous considérons nos intérêts vis-à-vis de la vie spirituelle? Il faut que chacun arrive à s'examiner par rapport à cela. Et je sais que Christ va donner la vraie interprétation pour chacun. Chaque chose a son temps. S'il est temps maintenant de réaliser quelque chose, vas-y sans peur. Mais rassure-toi qu'à côté de Marie, il y a un Judas. Mais Christ est là pour Marie. Que Dieu vous bénisse.